Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Les écrivains mettent un peu d'eux-mêmes, ou peut-être beaucoup, dans ce qu'ils écrivent. D'eux-mêmes, de leur milieu, de leur environnement. Aussi, comment s'étonner quand un officier d'ASRPJ décide de prendre la plume et d'écrire un polar ? Réussite immédiate, puisque son premier roman écrit en 2009 obtenait le prix du Quai des Orfèvres. Et comme c'est un récidiviste, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Guillaumeau pour un nouveau roman intitulé « La chance du perdant » aux éditions Liana Lévy. Bonjour Christophe Guillaumeau.
Bonjour Monique.
J'ai rarement l'occasion de recevoir un officier de la SRPJ et je me dis qu'il ne peut pas y avoir de personne mieux renseignée sur les côtés, sur la ville, sur ce qui se passe dans un monde que l'on côtoie mais que l'on ne connaît pas finalement. Et je me dis, vous avez un regard tout autre que le mien. Vous avez certainement le mien aussi, mais vous avez un autre regard.
Oui, c'est possible. J'ai le regard d'un policier sur ma ville.
Sur les côtés sombres quand même.
Et sur les côtés sombres, alors pas tous les côtés sombres, hein, parce que chaque policier s'occupe d'une matière bien particulière et la mienne concerne le jeu. Mais effectivement, on côtoie tout ce qui peut se passer de
pas très clair,
de pas très clair,
peu,
de grave.
Oui. Voilà. Oui. Alors oui, je vous écoute là. Je me dis oui, le jeu. Alors à Toulouse. Ah oui, ben voyez, je pensais même pas qu'il devait y avoir des salles de jeu illégales ou des choses comme ça, sans doute.
Oui, il y en a, ça, c'est des choses qui arrivent, effectivement. Et nous sommes là, effectivement, pour faire fermer ces salles clandestines.
Ouais.
Voilà, mais nous avons un champ qui est très large. Nous contrôlons les casinos, les hippodromes.
Oui, parce qu'il y a des paris aussi.
Voilà,
nous
surveillons les paris, nous essayons d'identifier les tricheurs, et puis il y a un gros travail sur tout ce qui concerne le blanchiment d'argent.
Ah oui, il y a ça, actuellement, effectivement, ça va être un gros travail. Pourquoi avoir choisi Toulouse ?
Parce que j'y travaille déjà, et puis parce que c'est une ville qui m'inspire.
Vous n'êtes pas de...
Pas du tout.
Non, vous venez de quelle région ?
Alors, c'est compliqué, j'ai beaucoup bougé en France. Je suis né à Annecy, je suis haut savoyard, mais j'ai passé toute mon enfance à Vesoul. Vesoul, rendu célèbre par Jacques Brel.
Par Jacques Brel.
Voilà. Mais les aléas de la vie ont fait que je me suis retrouvé à Toulouse et que je suis très content d'y vivre.
Alors, c'est un bon décor pour parler des problématiques sociales, entre autres ?
Oui, je crois. Toulouse est une ville moins lisse que, par exemple, Bordeaux.
Ah oui, Bordeaux, vous la trouvez plus lisse ?
Ah oui, tout à fait, oui.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Je trouve qu'elle est... Toulouse est plus revendicative.
Moins policée.
Moins policée, voilà, exactement. C'est tout à fait le bon terme. Moi, Toulouse, quand je suis arrivé, j'étais surpris. Il y a des choses que je n'avais jamais vues. Par exemple, des gens dormir sous un pont. J'en entendais parler, mais je n'avais jamais vu ça. Et malheureusement, il y a aussi une pauvreté cachée un peu dans Toulouse. Il y a des cités, dortoirs. Il y a des grandes entreprises. Il y a des équipes de foot, de rugby. Enfin, de quoi faire. Et puis il y a un passé historique qui fait que c'est une ville qui est propice à des polars.
Une ville colorée, agitée, qui était ville ouverte d'ailleurs à une époque.
Oui, je pense qu'elle en a gardé probablement des traditions.
Oui, alors c'est pas la ville rose des dépliants touristiques, parce que vous savez, maintenant il y a des quarts de touristes américains qui viennent, puisqu'il y a d'ailleurs beaucoup d'étudiants américains des programmes, des programmes d'études de en particulier d'américains. Du coup, les parents viennent et il y a des circuits qui viennent maintenant. Mais c'est le Toulouse plus underground, plus sombre. Ce qu'il y a d'étrange à chaque fois, quand je vous lisais, je me disais, mais c'est étonnant parce que dans le fond, c'est vrai, on n'y pense pas, nous. On n'y pense pas qu'il se passe des choses et que vous, vous êtes là-dedans, en plein cœur de ce monde autre.
Oui, alors c'est dur d'expliquer parce que pour moi, c'est mon quotidien. Donc,
oui, exactement.
Je ne fais que retranscrire ce que je vois et ce que je ressens lors de mes interventions, soit lors aussi de mes balades dans ma vie privée. Mais effectivement, de toute manière, d'être auteur, ça ouvre les yeux. Déjà, quand on est flic, on a un regard qui est assez curieux. Et en plus, quand on devient auteur, c'est quelque chose, on est toujours à regarder et à apprendre et à absorber les choses.
Oui, oui, oui. Oui, en fait, en plus, il y a le fait d'une enquête, c'est un peu... si je dis jeu de piste, ça paraît ludique, mais quand même, il y a ce désir de découvrir, c'est une énigme à découvrir.
Oui, tout à fait, c'est ça. Hein. Souvent, on part de pas grand-chose. Et puis, c'est à nous de progresser pour identifier les personnes et puis ensuite les interpeller et présenter une procédure correcte en justice.
Et oui, oui, voilà. Il y a ça aussi. Il faut avoir des éléments.
Exactement.
Ce que vous dites d'ailleurs à un moment donné. Moi, je me disais, mon Dieu, mais Toulouse, c'est si provincial dans les années 50 que vous ne pouvez pas avoir connu. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas plus dire ça ne se produirait pas chez nous. En fait, tout peut se produire, on s'en rend compte.
Oui, tout à fait. Enfin, les exemples, nous avons eu AZF, nous avons eu malheureusement l'affaire Mera. Tous ces actes nous montrent qu'à Toulouse, on est comme la capitale d'Occitanie. Donc par là, on peut tout à fait être des cibles à toutes sortes d'agissements.
Et nous sommes aussi la ville du street art, la ville des graffitis, et vous nous le rappelez. Alors malheureusement, à travers une jeune femme peintre qui est une graffeuse, enfin malheureusement, elle va sentir... Faut pas que je le dise, je dirais pas. Ça allait m'échapper, mais c'est vrai que il y a eu d'ailleurs il y a pas très longtemps une exposition sur le street art. Alors autrefois les bougons disaient oui, oh c'est des graffitis, c'est des tags, c'est moche. Il y en a de très très beaux.
Tout à fait. Moi j'ai découvert ça également lors de cette exposition au 55. Il y a vraiment de grands graffeurs qui viennent exposer leur œuvre et c'est à cette occasion que j'ai découvert les talents de Mademoiselle Cat, qui est une graffeuse qui a débuté sur Toulouse et qui maintenant œuvre un peu partout dans le monde. Et quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis tout de suite dit que je pourrais gagner quelque chose à mettre ça dans un personnage. Et je suis allé à sa rencontre, elle a gentiment répondu à mes questions, donc je ne fais pas tout le temps des interrogatoires de voyous, je fais aussi des interrogatoires
de graffeuse.
Et c'était très intéressant parce que d'une part, elle m'a renseigné sur toutes ces techniques pour peindre sur les murs, mais elle m'a donné aussi... ce que j'ai essayé de retranscrire dans mon roman, c'est-à-dire elle ne peint pas comme ça sur un mur, elle va à la rencontre des gens pour savoir ce qu'ils pourraient avoir envie, pour savoir quelle peinture, quelle œuvre serait la mieux adaptée pour les gens de ce quartier. Et j'aimais bien cette démarche. Et puis à côté de ça, elle m'a donné plein de petites anecdotes et moi je suis à la recherche de ces petites anecdotes parce que souvent, c'est les petits riens qui font de grands personnages.
Et c'est ce qui peut-être vous donne l'inspiration, si je peux dire, qui vous donne l'idée, un fil conducteur ?
Oui, oui, tout à fait. J'aime bien partir de petites choses pour décrire des endroits, notamment.
D'accord.
Je prends l'exemple... dans le premier tome du Kanak qui ressortira chez Point
on va parler
en mars 2018 et qui donc mon premier roman s'appelait Abattez les grands arbres et une bonne partie se passe à la basilique Saint-Sernin et je suis allé rencontrer le sacristain qui m'a fait une visite de la basilique et j'aurais pu la décrire d'une manière architecturale, mais c'est pas la chose qui m'intéressait. Et par contre, lui, il m'a donné des éléments très intéressants, comme par exemple, il y a des personnes qui viennent des fois dans la crypte s'agripper à la colonne centrale pour ressentir les vibrations de la basilique lorsque les cloches sonnent. Pareil, il y avait
les détails vraiment qui sortent inhabituels.
Exactement. Ouais. Et c'est des détails qu'on peut remarquer si si on est néophyte et qu'on se balade dans ces lieux. Et voilà. Et moi, je veux être mon personnage principal est Kanak et donc il est un spectateur de notre vie en métropole. Mm-hmm. Donc il a un regard étranger, distancié. Voilà.
Oui. Vous repérez les lieux ou vous...
Tout le temps, je me déplace où je rencontre des gens qui sont dans des lieux que je veux mentionner. Vous savez, souvent dans mon métier de flic, lorsqu'on coince un peu, on dit il faut se rendre sur place.
Il ne faut pas rester à
son bureau, sur son ordinateur, regarder ses fichiers, regarder Internet, des choses comme ça. Il y a des moments, il faut monter dans sa voiture et puis aller sur place. Ouais. Eh bien, l'écriture, c'est exactement la même chose. À un moment donné, il faut aller sur place.
Il faut sentir les choses.
On va tomber sur quelqu'un au hasard et puis on aura tout de suite l'inspiration qui va partir.
Christophe Guillaumeau, vous pourriez peut-être commencer à lire... Alors, nous avions parlé justement du prologue. Mm-hmm. Peut-être pas tout le prologue, non ?
Eh bien, écoutez, vous m'arrêtez quand...
Oui, je vous arrêterai. Oh non, je ne vais pas arrêter un policier. parce que surtout, j'ai peur que ça fasse un peu long et on a des choses à dire. Vous
D'accord.
avez des choses à dire.
Eh bien, écoutez,
allez-y.
Je ne suis pas un grand lecteur, j'écris. Hein. Ce n'est pas mon métier.
On vous pardonnera.
Merci beaucoup. Combien de mètres ? 10 ? 12 ? Tout au plus ? Rien d'impossible. Il n'est pas sportif, mais l'épreuve est à sa portée. Il manque d'abdominaux, son ventre est flasque, il a pris du poids ces dernières années, mais ses cuisses sont encore musclées. Il jouera de ses larges épaules pour se tailler un chemin. C'est l'unique solution, celle qui le sortira du gouffre. Il n'a qu'à foncer. Quelle est la profondeur ? 1 mètre, peut-être 2 ? Pourra-t-il respirer ? Il n'a pas le droit de compromettre la survie de sa famille. Maintenant, il est au pied du mur. Il ne peut plus mentir ni se dérober. Il ne peut plus fuir. Devant lui, il y a la fosse. Il va devoir se jeter dedans comme on plonge dans une piscine en plein été. Sauf que des milliers de bouteilles en plastique font office d'eau chlorée. Combien y en a-t-il ? Difficile à dire. C'est bizarre cette manie de quantifier les choses. Peut-être est-ce à cause de sa mère, professeure de mathématiques. Il a besoin de poser des nombres sur tout, d'être assuré. Pas d'approximation. Il regarde sa montre plus que 2 minutes avant de devoir baisser la manette. Être son propre bourreau. Respecter les consignes, déclencher le compacteur et se jeter dans le gouffre. Sa respiration s'accélère, il pense à ses enfants, Victor qui attend le samedi que son père l'emmène au rugby, Charline qui bientôt tiendra sur ses 2 jambes, et puis il y a sa femme qui n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il espère toujours la reconquérir, la faire changer d'avis. Il soulève le rabat de sa sacoche, fouille à l'intérieur et en ressort une enveloppe. Il regarde une dernière fois la photo, elle et lui, ensemble et insouciants. Il n'a pas le temps de relire la lettre, ces quelques lignes de rupture. Elle n'est pas partie pour un autre. Non, elle l'aime toujours, mais l'enfer n'est plus supportable. Il sait que tout est sa faute. Responsable du désastre financier, des huissiers qui ont sonné un beau jour à leur porte. Elle l'avait mis en garde contre cette obsession, cette passion dévorante. Là, aujourd'hui, dans cet endroit morbide, il a les moyens de tout changer, de se faire pardonner. Nouveau départ. Il dépose soigneusement la sacoche à terre, un frisson le parcours. L'endroit est glacial. Il ne regrette pas d'avoir pris sa veste en cuir, parce qu'elle est vieille et très résistante. Elle repoussera les assauts du plastique meurtrier. Il évite de regarder vers sa gauche, là où sont stockés les cubes compactés, ne pas augmenter son stress. Toute une piscine de déchets réduite à 1 mètre cube de plastique. Il ne veut pas terminer là-dedans. Il s'échauffe, fait des petites extensions, décrit de grands cercles avec les bras. Il doit augmenter ses pulsions cardiaques, tel un athlète avant l'effort. Tout donner dès le coup d'envoi. 30 secondes, plus le temps de réfléchir. À l'extrémité du compacteur, il y a ce gros bouton rouge de sécurité, pour tout couper en cas d'urgence. C'est lui qu'il faut atteindre pour survivre. C'est son point de mire, son but. 3, 2, 1...
Et on s'arrête là, il ne faut plus... Et nous entrons dans le monde de l'addiction.
C'est ça.
En fait, voilà. Merci pour cette lecture parfaite.
Merci.
Christophe Guillaumeau, nous allons faire une première pause musicale et nous reprenons tout de suite après. I've been low.
I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it. I'm a black man in a white world. 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 I'm a black man in a white world.
I've been low and I've been high. I've been sold all my life. I got nothing new to play.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, voilà une musique proposée par Christophe Guillaumeau. Vous pouvez nous annoncer de
quoi? Oui, c'est Michael Kiwanuka, Black Man in a White World. Mon anglais est très mauvais, mais un homme noir dans un monde de blanc. Et ça correspond tout à fait à mon personnage principal.
On va en parler parce que d'un côté, effectivement, il y a des policiers qui ne sont pas du tout stéréotypés, mais des hommes avec leurs convictions, leur fragilité, leurs états d'âme. Comment avez-vous trouvé ces personnages?
Alors, je les ai trouvés surtout. Enfin, je voulais déjà lutter contre toutes les idées reçues et toutes les images d'Épinal qui sont sur les policiers et qui nous conduisent probablement à écrire aussi nous les policiers et à retranscrire notre vérité. Souvent, on voit des héros flics qui ont la quarantaine, qui sont divorcés, qui boivent peut-être un peu trop, qui sont dépressifs. Et moi, je voulais sortir de ces schémas. Et je me suis inspiré en fait d'un ami que j'ai rencontré à l'école de police il y a 25 ans, qui venait de Nouvelle-Calédonie et qui était wallisien, en fait, qui était une montagne de muscles. Il mesurait 2,03 m. Il appelait ses amis gros chameaux, les petits...
C'était amical, ça.
C'était amical, par contre. Il proposait aussi des gifles amicales aux voyous s'il n'exécutait pas ses ordres. Et tout le monde obéissait lui obéissait parce que c'était vraiment une force de la nature. Mais en même temps, il avait vraiment la main sur le cœur. Et je me suis dit, un héros...
Vous en parlez au passé ?
Oui, il est décédé en 2009, malheureusement. D'un accident vasculaire. Il est mort chez lui en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc
c'est le personnage de Renato
Donatelli, tout à fait,
qui on appelle le Kanak, originaire de la Nouvelle-Calédonie, de petit-fils du roi de l'île des Pins. Voilà, une armoire à glace au cœur tendre, vous en parlez. Je me suis posé la question parce que finalement, pas de la part de son équipe, mais on se rend compte que dans d'autres... Il faut dire quand même que on parle de la police, mais finalement il y a des groupuscules même, parce que là c'est le service, c'est les jeux, c'est les paris, tout ça. Et puis il y a ceux qui font, il y a la crime, c'est ça ?
Il y a la criminelle, il y a les stupes.
Voilà, et c'est chaque fois quand même des microcosmes. Hein,
oui, tout à fait, puis voilà. c'est un peu ce qui se passe dans la police. Comme je dis souvent, enfin, la police est devenue très spécialisée, donc chaque matière est bien spécifique et demande vraiment une attention particulière et des formations particulières. C'est plusieurs petits mondes qui travaillent l'un à côté de l'autre.
Oui, alors lui, il est dans l'univers justement des jeux, lutte contre les paris, contre les maisons de jeux illégales, etc. Mais on se rend compte quand même qu'il peut avoir affaire, chez les policiers aussi, à des racistes.
Il y a tout. Voilà.
Oui, il y a de tout.
Il y a de tout.
Bah, oui.
Mais effectivement, mon personnage, je l'ai fait black parce que déjà il y a très très peu de héros black dans le paysage français. Donc moi, ça m'intéressait qu'il soit noir. Ça m'intéressait qu'il soit au plus bas de l'échelle aussi parce que souvent on a des personnages principaux qui sont des chefs et en fait. Ça m'intéressait qu'ils soient gardiens de la paix parce que j'ai un très grand respect pour les gardiens de la paix qui sont
en prise directe avec...
Ce sont eux qui font la police. Ce sont les chevilles ouvrières de la police. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Et donc, je voulais leur rendre cette vérité.
Oui, d'accord. Oui, effectivement. Et eux sont vraiment de plein fouet en contact avec la population, hostile ou pas.
Tout à fait.
Voilà. Alors, il y a donc lui, qui est un attachement très émouvant pour une vieille dame, qui est le diamant noir. On ne sait pas qui elle est. Bon. On ne sait pas,
c'est quelque chose qui va se développer au fil des histoires.
Oui.
Voilà, on sait juste que c'est une amie de famille et notamment une amie de son grand-père.
Et il la considère quasiment comme sa grand-mère.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et elle est très mal, elle a beaucoup de problèmes de santé, il s'en occupe comme ferait un fils ou un petit-fils. Alors, il y a également Six, un jeune lieutenant. Alors donc... grade au-dessus,
tout à fait.
Au-dessus de Donatelli. Alors, on l'appelle Six, alors que ce n'est pas son nom, mais on sent que lui a également certaines... parce que Renato Donatelli est fort. Je pense qu'il est très équilibré, il paraît très équilibré.
Oui, tout à fait.
Six paraît plutôt fragile. Bon, il a été viré de la brigade criminelle, comme Donatelli, et ils se retrouvent tous les deux à la section des courses et jeux. Splendide placard du commissariat, dites-vous. Je cite. C'est considéré ainsi ?
Non, c'est pas considéré ainsi, mais il faut toujours. Je ris un peu de mon travail parce que il faut. Je veux pas passer pour un super héros. Il faut relativiser les choses. Travailler dans le monde du jeu, c'est très intéressant. Il y a des enquêtes très variées. Mais voilà, c'est pas la brigade criminelle. c'est pas l'antiterrorisme. Voilà.
Et vous pourriez, par exemple, passer des jeux à la brigade criminelle ?
Oui. S'il faut juste qu'il y ait des postes qui s'ouvrent, que j'en ai la volonté. Et voilà.
D'accord. Alors, on voit aussi au sein de la police, donc vous montrez que oui, il y a de tout, comme vous dites, hein, que certains policiers dérogent à certaines règles d'éthique professionnelle. Évidemment, on pense au Ripoux, puis on a vu ce qui s'est passé à Lyon également. Hein, et bon, ça arrive, comme partout, vous direz-vous,
même
au ministère des Finances.
Oui, la police est un reflet de notre société. Après, peut-être que je grossis le trait de certains personnages, et notamment de la brigade des stupes, pour l'intérêt de l'histoire. Vous savez, quand on est écrivain, je dois placer un curseur entre la réalité et la fiction. La réalité pour que le lecteur soit vraiment pris dans l'action, et puis la fiction pour que ça soit intéressant.
Bien sûr.
Si je vous raconte vraiment une enquête, comment ça se passe, vous allez
très long,
vous allez vous endormir. Hein.
ça va être
un peu barbant.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et puis d'autre part, je peux pas dire que tous les policiers sont beaux, gentils, respectueux des règles, parce que c'est pareil, on va s'embêter. Voilà. Donc moi, ça m'intéressait que Renato, il ait des embûches de partout. C'est-à-dire, il a des embûches à cause de l'enquête, il a des embûches parce qu'il est gardien de la paix et que au-dessus de lui, il y a toute une hiérarchie qui peut l'embêter. Et il est embêté aussi par des brigades qui sont
avec lesquelles il a des différends.
Voilà.
Oui. Alors justement, il y a ce côté, lui et son équipe. Mm-hmm. Alors, ça joigne deux originaux également.
Tout à fait.
Alors, ça aussi, c'est une habitude d'embaucher comme ça. Alors, il y a une sorte de prestidigitateur.
Oui, c'est vrai.
Un peu voyou, un peu
un
canaille.
Un peu voyou, un peu canaille, oui, c'est ça. Il m'a été inspiré par quelqu'un qui travaille dans la police, hein, alors qui n'est pas du tout voyou, mais qui est prestidigitateur et qui a été embauché pour démasquer les tricheurs et pour nous apprendre à démasquer les tricheurs, toutes les astuces, tout ça.
D'accord.
Voilà.
Oui.
Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment très impressionnant dans la manipulation. Et
alors c'est un jeune, lui. Hein.
C'est un jeune. Dans mon roman, c'est un jeune. Et puis il y a un professeur à la retraite, de spécialiste en statistiques, et qui truque des paris. Voilà.
D'accord. Oui. Donc, voilà l'équipe.
Une équipe de bras cassés. Un peu.
Oui. Très hétéroclite, loin des clichés habituels. On a l'impression que souvent... c'est comme ça, ça doit arriver aussi, hein, des gens un peu disparates et qui se retrouvent.
Alors, c'est le principe, hein, on ne choisit pas les gens de sa brigade, c'est souvent des arrivées qui tombent comme ça du ciel, et il faut vous entendre, même si vous n'avez peut-être au départ pas d'atome crochu. Voilà. Et puis, des fois, vous avez la mayonnaise qui prend, et puis ça en fait une super équipe. Voilà.
Oui. Alors, il y a cette équipe. On parlera peut-être plus tard d'une équipe, c'est de la criminelle, je crois que c'est la criminelle. Ou alors, je pense à une série américaine qui était assez extraordinaire, où on voyait des policiers qui étaient à la fois excellents, mais avec des méthodes pas très recommandables.
The Shield,
excellent.
Oh, vous me faites plaisir, Monique.
Vous voyez, hein.
Pour moi, c'est la série.
Ah, oui.
C'est une série qui restera dans mon top 5, 2, ou peut-être même la première. Voilà.
Ouais.
Et c'est toute l'ambiguïté, justement. Dans The Shield, vous avez un moment qui est très intéressant, où les enquêteurs qui respectent la loi sont bloqués sur un type qui est une ordure finie, et puis ils sentent qu'ils ont perdu la partie, et ils sont obligés d'aller voir cette brigade-là.
Oui, qui est faite de... Ils sont... Voilà. Oui, de gens.
De voyous, des... oui. Enfin, oui, de oui, gens oui. Qu'on franchit la, voilà. Qu'on franchit la limite. Voilà. Et moi, ça m'intéresse d'étudier ça. Ouais. Voilà, ça m'intéresse d'étudier ça parce que je dirais que la bascule entre le moment où on est rentré dans la police pour faire des choses bien, en fait, mm-hmm. Hein, pour mm-hmm. arrêter les voyous, et puis le moment où on bascule chez les voyous.
On veut être efficace voilà. Aussi.
Moi, ce chemin-là, il est très intéressant à suivre.
Ouais. Voilà. Ouais, ouais.
Et donc voilà, c'est une étude qui m'intéresse. Après, ce qu'il faut bien remettre, hein, c'est très intéressant pour un roman, mais il faut bien être conscient que moi, il y a plus de 25 ans quand je suis rentré dans la police et maintenant, je pense que je peux dire que c'est
tout a changé.
La police, c'est l'institution qui s'est probablement le plus changé
les moyens techniques
et en bien. Ouais. Alors par les moyens techniques, c'est sûr, mais aussi au niveau déontologique. Moi, par exemple, je vous donne un simple exemple. Quand j'ai commencé dans les années 90, quelqu'un qui était placé en garde à vue et qui n'avait pas d'argent dans ses poches ne mangeait pas. Voilà, maintenant, un gardé à vue va pouvoir manger, va pouvoir se reposer, va pouvoir d'accord. voir
oui.
un avocat,
ah,
appeler
oui,
sa
oui,
famille.
Il oui, oui. y a un respect de l'homme.
Il y a des lois qui ont été
oui,
quand même
mises en place,
mises ouais. en place pour assurer et pour éviter justement des dérives.
Oui, oui, oui. Et en même temps, je me dis
évolution.
Que parfois, on doit être à cran, parce que là, on parle des autres personnages. Mm-hmm. Il y a des marginaux mafieux habités par... le mal d'une certaine mmh. forme. Et quand je dis marginaux, il peut y avoir des femmes aussi. Mmh. Il y a des individus sans foi ni loi. Je ne dirai rien. Hein, Christophe, je ne dirai rien. Des gens dépourvus bon, de sensibilité, d'empathie, enfin d'humanité mmh. finalement. Mmh. Ça se rend compte, ça aussi.
Ben, c'est un tout. Hein, voilà. Moi, je peins plein de portraits différents et qui sont des portraits de notre société. Alors peut-être que je les rencontre plus dans mon métier que...
oui, je pense que, quand même.
Que mes lecteurs ou mes lectrices.
Ou alors, y en a qui cachent bien leur jeu.
Voilà,
leur
tout à fait.
Jeu, on ne sait pas. Mais également, on voit aussi ce que la vie, la société a brisé. Et puis ceux qui, on ne sait pas pourquoi. Bon, là, on ne va pas aller au... tout à fait, on va, pour le coup, on ne va pas creuser, mais qui ont des addictions. Et d'ailleurs, le prologue de votre ouvrage, mm-hmm. c'est ce qu'on montre, on entre dans le monde des gens qui sont habités, qui sont accrochés par mm-hmm. le jeu, hein, et qui ne s'en sortent souvent pas facilement. Enfin, voilà, ça existe.
Oui, oui, ça existe, c'est très dur. Moi, je peux... Il y a des chiffres qui peuvent être parlants. Hein. Sur Toulouse, sur ce qui concerne ce qu'on appelle les interdictions volontaires, c'est-à-dire les gens qui viennent volontairement s'interdire de l'entrée des casinos et des sites internet de jeux, on a à peu près environ 100 à 150 personnes qui viennent s'interdire chaque année à cause de cette addiction. Alors on appelle ça une interdiction volontaire, mais la plupart du temps, c'est pas une démarche volontaire, c'est une démarche forcée par le conjoint, par les banquiers, les huissiers qui disent si vous arrêtez pas le jeu, ça va devenir grave.
Oui, 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 oui. C'est un fait que là, au début, on ne sait pas trop. On voit dans le prologue ce qui se passe, et c'est vrai aussi que vous faites entrer dans la. On parlait de la ville tout à l'heure. Et dans votre ouvrage, la ville est vraiment un personnage.
Oui.
Vraiment. D'abord, on suit, pour peu que l'on connaisse la ville, mais même pour les autres, puisque on voit dans les romans américains, souvent, la ville est toute omniprésente. Et là, vous faites entrer des lieux. Là aussi, je me suis dit, mais c'est vrai, on ne pense jamais comment fonctionne une déchetterie.
Ah. Alors oui, effectivement, je prends comme base de départ un centre de tri sur Toulouse. Alors ça m'a été inspiré par ma grande fille qui a fait des stages d'été là-bas pour gagner un petit peu d'argent. Et en fait, tous les soirs, elle rentrait, puis elle racontait des petits faits, mais des petits faits qui, moi, résonnaient dans mes oreilles. Et puis, à la fin, je lui ai dit, écoute, assieds-toi là, devant mon ordinateur, et puis...
Raconte.
Et puis raconte, voilà.
Ah oui.
Et elle m'a raconté, bien entendu, toutes les horreurs qui peuvent passer sur un tapis roulant. Voilà, elle m'a parlé de ses relations avec ses collègues de travail. Plein de petits fonctionnements avec sa hiérarchie, avec les syndicats, voilà. Et tout ce petit monde là, je me suis dit, mais c'est un vrai endroit, d'une part pour un polar, mais aussi pour des liens, des liens sociaux, et voilà. Et voilà.
Oui, oui. Mais en fait, on se rend compte, quand on y réfléchit, que beaucoup de lieux de travail sont des microcosmes où les gens vivent, voilà, et bon, c'est un monde à part.
Oui, puis je pense qu'il suffit d'ouvrir la parole et puis
d'écouter,
et les gens sont prêts à vous raconter ce qu'ils font, sont prêts à vous raconter leurs problématiques, leurs envies, leurs rêves, et avec tout ça, on fait plein de choses. Et moi, c'est ça, je veux décrire Toulouse, je veux décrire les lieux, mais surtout par les personnes qui les habitent.
Bien sûr. Alors, un petit résumé quand même de l'histoire. Après la mort d'un homme dans un compacteur à déchets, une série de disparitions frappant des gens qui ont une addiction au jeu, mettent la puce à l'oreille de policiers dont nous venons de parler. Mmh. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, d'intrigant, c'est que ces personnes qui meurent, dont on retrouve les corps, portent chaque fois la carte à dame de pique. Alors, c'est là où on découvre petit à petit qu'en fait, on appelle ça des cris. Il y a un serial killer, probablement, non?
Probablement. Au moins, cette carte de la dame de pique relie ces différents décès. Donc, oui. Effectivement, là, on peut s'interroger en tant qu'enquêteur de police, de se dire, voilà, ces crimes sont liés, donc il y a quelque chose derrière tout ça.
Oui. Et puis, ce ne sont pas des simples jeux, suicides. Déjà, c'est un indice, mais c'est tout à fait par hasard, d'ailleurs, qu'il va y avoir un premier pas de fait. Christophe Guillaumeau, je vous propose une seconde pause musicale et vous allez nous dire de quoi il s'agit cette fois-ci.
Cette fois-ci, c'est Iggy Pop, The Passenger.
Et vous l'avez choisi pourquoi?
Alors, j'ai choisi parce que les paroles, c'est un type qui est assis sur une banquette arrière de voiture et qui regarde la ville. Et c'est tout à fait ce que fait mon roman. C'est voilà, je regarde la ville.
Et le canac, comme vous disiez, regarde parce que lui, il vient d'endroit tellement lointain,
oui,
tellement différent.
Tout à fait, lui, c'est le regard extérieur.
Ouais.
C'est
et lui qu'on devrait qui regarde, avoir aussi.
C'est lui qui regarde notre vie en métropole et qui, justement, vient remettre de l'ordre avec ses propres valeurs.
Voilà, nous écoutons.
Back sky and through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà une musique très entraînante, un peu à l'image effectivement de ce Kanak qui est votre personnage principal, qui est très dynamique, qui est très jovial, on l'imagine tel, qui est très généreux, qui est sans façon, qui est nature.
Ah, il est nature, oui, mais il est nature comme il était dans la vie de tous les jours.
Voilà.
Puisque je m'inspire, comme je l'avais dit, de quelqu'un qui a existé. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'était quelqu'un qui était très lumineux et que tout le monde aimait.
Ouais.
Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que les retours des lectrices et des lecteurs me disent tous, au-delà de l'histoire, de l'intrigue, me disent tous que oui, on aime le Kanak, vivement qu'il revienne. Mmh. Et je suis content de ça, parce que ça veut dire que j'ai gagné mon pari.
Ouais. Le personnage est là, il existe.
Tout à fait.
Alors, nous sommes en compagnie de Christophe Guillaumeau et nous parlons de son nouveau roman, un polar, intitulé La chance du perdant. Alors, et on a vu donc ces personnages, on a vu qu'il va y avoir une enquête. Alors, le problème, c'est très frustrant, mais on ne peut pas parler des choses importantes. C'est vrai qu'on sait que Six, ce jeune officier, vit mal une rupture. Et puis, il y a la direction. Alors, je viens de parler d'une rupture avec une femme. Il y a la direction, et en l'occurrence, c'est une femme, bachelier, qui sait se faire respecter. Alors déjà, c'est bachelier, on ne donne pas le prénom.
C'est Séverine Bachelier.
Ah bon, d'accord. Mmh. Et comment vous la... Quand vous avez ça aussi chez vous, là, actuellement ?
Non, pas du tout.
Quand je
dis
ça, c'est très irrespectueux.
Non, pas du tout.
Mais on a vu quand même qu'il y avait à Paris, je crois, une...
Ah non, mais des femmes, il y en a dans tous les corps de la police, hein, du plus bas échelon jusque dans les hautes sphères de notre direction. Oui. Les femmes, maintenant, représentent une part importante dans la police. Elles ont fait leur... pareil, je vous parlais d'une évolution importante dans la police. La place des femmes, c'est une évolution importante dans la police.
Bien sûr. C'est un monde moins macho. Il a été, hein.
Il a été macho. Moi, je peux vous dire que quand je suis rentré dans les années 90, quelqu'un m'avait dit cette phrase terrible. Il m'avait dit « N'oublions pas que les femmes sont rentrées après les chiens dans la police.
» Ah oui, d'accord.
Moi, je suis parti de là. Et donc, il y a eu une très très grande évolution qui, je pense, est bénéfique parce qu'elles apportent un certain regard, une certaine sagesse. Et dans beaucoup d'auditions, de rencontres avec les gens, elles sont d'une aide parfaite.
Alors, vous pourriez peut-être nous lire un petit passage, parce que Séverine Bachelier, elle est quand même pas commode. Elle est page 219. Le dernier paragraphe de la page 219, Bachelier ressemble à une mère ne sachant que faire de ses adolescents turbulents.
Je vous le lis, d'accord.
Voilà.
Bachelier ressemble à une mère ne sachant que faire de ses adolescents turbulents. Elle les regarde avec condescendance, comme si elle seule détenait la bonne manière de conduire l'enquête. Elle s'empare de ses lunettes, qu'elle préfère finalement oublier dans un tiroir plutôt que sur son nez. Elle épluche les différents rapports, maîtrisant le temps, puis entame l'entretien. « Je viens de parler avec le magistrat. Il refuse une prolongation de garde à vue pour Samuel Gotti, sa femme et son garde du corps. Pas d'éléments crédibles pour étayer vos hypothèses sur un éventuel lien avec le suicide des joueurs. » Bachelier n'est pas du style à se battre contre des moulins à vent. Ne pas gâcher le temps des fonctionnaires dans un combat perdu d'avance. Les affaires pleuvent sur le SRPJ, à elle de choisir celles qui seront les plus juteuses pour son service, ses statistiques et sa carrière. Et pour les stupes, s'inquiète Renato. La directrice soupire. L'IGPN dans ses murs, c'est une marque au fer rouge dans ses états de service. Elle aurait dû faire le ménage depuis longtemps, même si les stupes lui ramenaient de belles affaires médiatiques, des saisies records de drogue à s'en vanter devant le préfet. Les répercussions de l'arrestation de Georges et de son équipe sont comme une onde sismique incontrôlable. Le SRPJ tremble. Elle est sur un siège éjectable au gré des humeurs du ministre. Concernant la brigade des stupéfiants, il en est tout autrement. Un juge d'instruction a été saisi du dossier. Il a mis en examen vos anciens collègues, précise-t-elle à l'intention de Renato. La commissaire se penche sur un carnet à spirale pour relire ses notes. Violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Chantage, extorsion et recel. À cela s'ajoute une procédure disciplinaire pour vol de scellé. De la drogue et des espèces ont été retrouvées dans le coffre de Georges. À l'heure où nous parlons, les membres de ce groupe rejoignent différentes maisons d'arrêt de la région. Il y a fort à parier qu'ils n'en ressortiront pas de sitôt. Six et Renato échangent un regard. La roue tourne enfin en leur faveur. Le téléphone sonne, la main de Bachelier se pose sur le combiné.
Voilà, et il y aura une suite, bien entendu, une mauvaise nouvelle qui arrive. Et nous sommes suspendus à la lecture de votre ouvrage. Donc, il s'agit bien sûr de La chance du perdant, et c'est Christophe Guillaumeau qui est avec nous. Et en fait, on voit qu'il y a d'autres thèmes aussi. Il y a des thèmes parce que, évidemment, il y a l'enquête, évidemment, ils sont quatre, et il y a une solidarité, et j'imagine qu'il faut qu'elle se construise, cette solidarité, pour travailler.
Oui, elle ne s'invente pas. Le principe, la police, c'est un travail d'équipe. Seul, vous ne faites rien. Oui. Vous pouvez être le moteur, celui qui fait avancer l'enquête, mais il faut se servir des différentes énergies, des différentes compétences de chacun pour arriver à ses fins. Oui. Il faut quitter le côté un héros fixe qui fait tout, même si Renato a un fort caractère et une forte
personnalité. Il prend beaucoup de place dans tous les sens du terme.
Il prend beaucoup de place, et c'est normal. Mais au fil de l'enquête, les autres personnages qui sont en orbite autour de lui lui servent de point d'appui.
Oui. Mais alors justement, peut-être qu'en effet, dans la mesure où il y a toujours une équipe assez soudée, parfois la vie privée peut paraître d'autant plus difficile. Alors d'une part, il y en a qui sont seuls. Et je pense que quand même, c'est vrai qu'un couple, dans la mesure où il y a des horaires un peu compliqués aussi, il y a des à-coups certainement, c'est difficile d'avoir une vie familiale stable.
C'est le problème de la vie de flic. Ce sont des horaires qui peuvent être parfois très compliqués. Vous enchaînez des après-midi, des nuits, des matinées. Vous n'avez pas forcément d'horaire fixe. Ce n'est pas une journée où vous savez que vous allez terminer à 18h, mais
Ça peut déborder largement.
Ça peut déborder sur les week-ends. Ce sont des contraintes qui sont des sources. Qui sont des sources à fâcherie avec son couple, mais aussi quand on est seul, on peut effectivement tourner en boucle.
Voilà, et avoir aussi des problèmes, évidemment, d'alcool, ce dont vous parlez là, des comportements qui ne conviennent pas, évidemment. Compte tenu de tout ce que vous voyez dans votre métier et de ce que vous écrivez, qui est souvent très émouvant, je vais vous demander, comme Jean Dormesson vient de nous quitter, est-ce que, comme lui, gardez-vous l'espérance ?
Ah ben oui, j'espère. Moi, je suis très optimiste. Je suis triste aussi de la disparition de Jean Dormesson et en même temps très optimiste. Je pense que chaque génération a ses problèmes. Et qu'il ne faut pas se dire « Oula, c'est plus noir qu'avant, c'est plus dur ». Non, c'est faux.
La vie n'était pas rose autrefois non
Exactement. Plus. Exactement. Ouais. Et je pense qu'il faut faire confiance à nos générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants. Ils sauront régler leurs propres problèmes. Et donc, en cela, je suis pas du tout inquiet.
Alors, pour terminer, je vous lirai un des grands maîtres du polar qui a écrit, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Je sais qu'il participait à l'émission Les Papous dans la tête, une émission extraordinaire sur France Culture. Il a eu une vingtaine de prix, mais vous le devez le connaître. Bon, il a inauguré la collection du Poulpe. Voyez, et il disait, le polar, c'est un genre qui permet la critique sociale, le regard sur l'époque, tout en acceptant la stylistique. Il y a de tout dans le polar, et pas seulement des flics et de la viande au plafond. On peut y trouver de la dérision et de l'humour, de l'idéologie politique et des recettes de cuisine, des amours à faire pleurer ou rêver, et surtout des détails ethnographiques de première bourre. Voilà, alors... Vous voyez, je suis avec ma citation,
mais
je ne me souviens
résumé.
Plus. C'est tout à fait ça,
oui,
finalement.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une vraie photographie de notre monde. Et puis, chaque auteur met ce qu'il veut dedans et chaque lecteur prend ce qui l'intéresse dedans.
Exactement.
Donc, voilà. Tournons autour de la planète polar.
Bon, écoutez, alors, on attend la suite des aventures du Canac. Merci, Christophe Guillaumeau.
Merci, Monique.
Je rappelle qu'il s'agit de La chance du perdant, paru aux éditions Liana Lévy.